spirituel en ce 6 janvier. C'était autrefois congé, c'était une grande fête, l'épiphanie du Seigneur. C'est célébré maintenant le dimanche dans nos églises, le samedi soir et le dimanche. Mais l'épiphanie, épiphanie, épiphanie, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Se demandent peut-être quelques personnes. Hein? On pourrait traduire ça par théophanie. Théo, tout le monde sait que ça veut dire Dieu. C'est la manifestation de Dieu, c'est la fête, donc, aujourd'hui, de la manifestation de la divinité de celui qui est né le 25 décembre, enfin, celui qu'on a célébré le 25 décembre, Jésus de Nazareth. Il est Dieu. Et aujourd'hui, il y a trois façons d'affirmer qu'il est Dieu. Tout d'abord, les noces de Cana, où il a changé l'eau en vin, il a une autorité sur la matière. Le baptême dans le Jourdain par Jean-Baptiste, où une voix, la voix de son Père, retentit du haut des cieux, puis l'Esprit Saint qui apparaît sous la forme d'une colombe, et la voix qui retentit du haut des cieux dit « Voici mon Fils bien-aimé, dans lequel j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. » Et puis, il y a évidemment surtout ce qu'on célèbre, c'est l'adoration de ceux qu'on appelle les mages. On connaît le récit de l'Évangile de Saint Matthieu, c'est celui-là qui est retenu dans nos églises à la messe. Ce récit de Saint Matthieu est au chapitre 2, c'est au début évidemment. Et puis, on lit que peu de temps après la naissance de Jésus, donc à Bethléem, il y a des mages. Saint Matthieu ne dit pas qu'il y en a trois. Hein. Il dit qu'il y a des mages qui sont guidés par une étoile. Bon, est-ce qu'on est obligé de tout croire ça? C'est pas nécessaire d'y croire pour comprendre le sens, et c'est le sens qui compte. D'ailleurs, qu'est-ce que ça donne de croire qu'il y a eu des mages vraiment, puis une étoile, si on comprend pas ce que ça veut dire, puis si on ne le met pas en pratique? Et toute l'émission ici va chercher à essayer de vous faire comprendre, puis de me faire comprendre d'abord à moi-même, jusqu'à quel point c'est beau, et ça peut nous élever et nous faire nous rapprocher de Jésus de Nazareth. Hein? Alors, ils arrivent de l'Orient, à Jérusalem. Et puis, ils cherchent celui qu'ils sont supposés trouver après avoir suivi l'étoile, parce qu'ils veulent rendre l'adoration à un enfant qui leur a été signalé comme le nouveau roi des Juifs. Et puis, ils avaient été avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode. Ils regagnent leur pays par un autre chemin. Bon, c'est à peu près le résumé de l'Évangile, ça, de les 12 versets là, de Saint Matthieu. Ce récit, il suffit de dire que la tradition nous offre certaines choses certaines. Bon, la grande tradition de l'Église. Hein. Ils sont venus des régions qui se trouvaient à l'est de la Palestine, ces mages. On les a considérés comme des monarques, des rois. Alors, on dit souvent des rois mages. Ils étaient au courant, selon la tradition, croit-on, de la prophétie de Balaam. Puis, ils ont été, dit-on, divinement éclairés au sujet de la naissance de Jésus. Leur démarche est présentée comme un modèle. Un modèle de quoi, justement? C'est ça, la clé. C'est le modèle de l'obéissance, hic et nunc, comme on dit en latin, l'obéissance tout de suite, la prompte obéissance, l'obéissance dans le moment présent à l'appel de Dieu. On n'obéit pas hier, on n'obéit pas demain, on obéit tout de suite dans l'instant présent. C'est dans l'instant présent que Dieu est. C'est dans l'instant présent qu'il y a la sainteté qui permet l'union à Dieu et qui permet cette union à la divinité. On les a considérés, ces mages, en somme, à travers les siècles, comme l'annonce, les prémices, si vous voulez, de tous ces peuples païens, comme nous autres, là, appelés à la foi. Alors, on est assez mal renseignés sur la fin de leur vie, comme aussi sur le culte rendu à leurs reliques. Les reliques, je crains fort qu'il n'y en ait pas, mais je ne veux pas scandaliser personne en disant ça. Et puis, il y a eu des reliques qui auraient été apportées au 4e siècle de Perse, c'est-à-dire d'Iran d'aujourd'hui, et d'Arabie, à Constantinople, en Turquie. où est le centre de l'orthodoxie, hein, de l'Église d'Orient. Et ces reliques seraient passées de là à Milan, dans le nord de l'Italie, d'où l'empereur Frédéric Barberousse, en 1161, les aurait fait transporter à Cologne, en Allemagne. Bon, puis à partir de cette époque, saviez-vous ça, que les trois rois mages sont devenus, dans cette ville de Cologne, l'objet d'un culte très populaire. Bon, ça suffit pour ce qui est des reliques, là, et puis de l'histoire. Mais cette manifestation, elle nous a été racontée de façon admirable au grand séminaire samedi soir. Je vous avais mentionné ça vendredi, vous avez invité, plusieurs sont venus à mon appel et ont assisté à une messe en chant grégorien dirigée par Jean-Pierre Noiseux. L'Eucharistie était présidée par un bénédictin de Saint-Benoît-du-Lac, dont Robert Bessette. Le chant était sublime, c'était absolument magnifique, à peu près ce que j'ai entendu de plus beau en grégorien dans toute ma vie, dans tous les monastères où je suis allé. Je le dis pas pour faire plaisir à Jean-Pierre Noiseux qui choisit la musique de mon émission, mais parce que c'est vrai. Et il y a eu un jeu. Au lieu d'une prédication, d'une homélie, il y a eu un jeu, c'est-à-dire une petite pièce de théâtre, si vous voulez, qu'on appelle le jeu de l'étoile. C'était un drame liturgique du 11e siècle qui a été composé à la fin de ce 11e siècle à l'abbaye hongroise de Győr. Et les personnages, les chantres costumés qui ont interprété ça, l'ont fait de façon absolument magistrale. C'était très saisissant. Voilà une façon de manifester ce qui était au cœur de ces mages, ce qui était au cœur des disciples lors des noces de Cana, quand ils ont vu le pouvoir du Christ sur l'eau qu'il a changé en vin. C'était ce qui était au cœur de Jean-Baptiste et des témoins lors du baptême de Jésus. Parce que le thème épiphanie, c'est utilisé fréquemment dans les psaumes. Traduction, les psaumes des Septantes, pour exprimer le caractère lumineux de la face de Yahvé sur son peuple. Épiphanie, caractère lumineux de la face de Yahvé. En somme, l'épiphanie, ce sont les manifestations de Dieu en faveur de son peuple. Puis dans le Nouveau Testament, le terme d'épiphanie, on le voit dans les épîtres de saint Paul. Le terme désigne l'avènement glorieux, où il se réfère à la venue du Seigneur dans la chair, la venue de Dieu qui prend un corps humain et se manifeste. Si on regarde l'historique de la fête de l'Épiphanie, elle est d'origine orientale. Dès la fin du IIe siècle, on trouve en Orient un témoignage concernant une célébration liturgique qui est fixée au 6 janvier. Il y avait une secte, je la mentionne parce que c'est assez intéressant, la secte de Basilide. Eux, pour eux, la naissance de Jésus, ça n'avait aucun intérêt. Parce que le premier événement du salut se produit quoi? Au bord du jardin, lors du baptême dont je vous ai parlé, lorsque le Fils de Dieu, uni à l'humanité de Jésus, apparaît finalement dans toute sa divinité, grâce à cette parole qui surgit du ciel et qui dit « Voici mon Fils bien-aimé ». Alors le 6 janvier, on célébrait donc dans bien des églises, parce qu'il y avait toutes sortes d'églises autour du bassin méditerranéen, mais on célébrait le baptême du Christ qui était la manifestation de la divinité. Ces éléments vont être adoptés définitivement par les églises d'Orient, qu'on appelle souvent aujourd'hui les orthodoxes ou les autres, à la fin du 4e siècle. Pourquoi? Comment ça se fait qu'ils ont choisi cette date-là du 6 janvier? C'est sans aucun doute parce qu'il y avait, vers le 6 janvier, des célébrations, des solennités païennes, qu'on appelait des épiphanies salvatrices ou salvifiques. Comme quoi, le christianisme a toujours su, même à Noël, christianiser des fêtes païennes, les transformer. Il y a d'autres croyances et coutumes païennes qui ont influencé la fixation et le contenu de notre fête chrétienne au 6 janvier. Hein. Pline, le fameux auteur profane, puis d'autres, signalent qu'il y a des prodiges qui s'accomplissent chaque année, le 5 janvier, au cours des fêtes consacrées à Dionysos. Ce sont des productions miraculeuses de vin, vous voyez le genre, hein? Des eaux de source puis des fleuves changés en vin, justement. Quelle belle occasion d'y introduire les noces de Cana, où Jésus a changé l'eau en vin, pour remplacer les anciennes croyances. Saint Jean Chrysostome, le fameux Saint Jean Chrysostome dont je vous ai déjà parlé, ben lui, il parle de sources dont les eaux là, qui sont puisées ce jour-là ne se corrompent pas au cours de toute l'année. Alors on peut en boire continuellement. Il ressort de cela, au fond, que les chefs des communautés chrétiennes, comme je viens de vous le dire, en Orient, là, ils n'ont pas voulu attaquer les croyances populaires, ils n'ont pas voulu non plus nier les prodiges qui étaient vénérés par les païens, ils les ont attribués à la puissance du Seigneur, ils les ont mis en relation avec les mystères du baptême de Jésus, puis les noces de Cana. L'eau qui purifie Jésus, qui n'a pas besoin d'ailleurs de purification. Et comme la Noël occidentale, ben la fête orientale du 6 janvier, ben elle a été la christianisation, comme je viens de vous dire, d'une date consacrée par des solennités païennes. C'est ça qu'il faut retenir. C'est assez intéressant de voir le christianisme qui ne craint pas de remplacer les fêtes païennes. Mais aujourd'hui, notre fête de Noël est devenue une fête païenne. Notre fête de l'Épiphanie, pour ainsi dire, oubliée, nous sommes retombés dans le paganisme presque. Mais l'Église est toujours là. Soyez sans crainte et allez-y, et vous verrez. Vous verrez. L'Église n'a pas craint donc de s'emparer des dépouilles du paganisme. Elle a respecté ce qu'elle percevait de ce qu'on pourrait appeler la préfiguration de ce grand mystère du Christ, sa divinité. Puis elle a donné à des formes anciennes un contenu nouveau. À Antioche, dont je vous ai parlé souvent depuis quelques jours, à Antioche, qui est aujourd'hui en Turquie, mais qui était en Syrie, avant l'introduction de la Noël, le 6 janvier, était considéré comme le jour de la naissance du Christ, le 6 janvier. Et ce contre quoi, précisément, Jean Chrysostome s'insurge, lui, il veut mettre ça au 25 décembre. Alors, on constate donc, dans les églises orientales, à l'origine de l'Épiphanie, des traditions très différentes. Ici, on ne commémore qu'un seul mystère, la nativité de Jésus, juste à Jérusalem. Ailleurs, la nativité, puis les noces de Cana. On trouve ça à Chypre, en Asie mineure, en Palestine. Ailleurs, encore, c'est la nativité, puis le baptême. On trouve ça en Syrie, en Arménie, en Égypte. Puis, les noces de Cana, là, le miracle du vin, de l'eau changée en vin, s'y ajoute parfois. On voit ça en Égypte. C'est là qu'on voit que tout se forme petit à petit. Quoi qu'il en soit, après l'introduction de la Noël occidentale, le 25 décembre, l'Épiphanie prend nettement en Orient figure de commémoration d'un fait concret, qui est parfaitement narré, circonstancié, c'est le baptême du Seigneur. Alors en Occident, mais les origines de l'Épiphanie, ce se fait en France, en Gaule, c'est très ancien, plus ancien peut-être que celle de Noël, l'Épiphanie. À l'Épiphanie, l'Église célèbre les trois miracula en Occident, dans notre Église. Comme je vous ai dit, l'adoration des mages, le baptême de Jésus, puis les noces de Cana. Et l'Église romaine a dissocié les deux mystères de la nativité puis de l'adoration, là, la naissance puis l'adoration des mages, qui étaient des objets primitifs de Noël, puis a tout reporté ça au 6 janvier en donnant la valeur, comme j'ai dit au début, de manifestation de la divinité du Christ, mais acquis aux païens. Les mages sont représentants des païens. Et les sermons du fameux pape Saint Léon, qui sont témoins de cette interprétation, eux, et ces sermons-là envisagent l'Épiphanie comme étant le complément de Noël. À Noël, donc, Jésus se révèle à Israël, au peuple élu, là. Puis à l'Épiphanie, bien, il se manifeste aux gentils, c'est-à-dire à tous les autres peuples de la terre, dans la personne des mages. Puis le baptême et les noces de Cana sont incorporés plus tardivement à la liturgie. Et puis, ces deux mystères demeurent secondaires. Alors, qu'est-ce qu'on va retirer de tout cela? Je vais vous le dire tout à l'heure en quelques mots. Et nous allons méditer pour aller au fond du sens de tout ça avec un auteur extraordinaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ce que je viens de vous raconter? L'épiphanie romaine, là, la nôtre, célèbre une triple manifestation de l'homme-Dieu. Plus exactement, trois moments, trois aspects du seul et même événement sauveur et illuminateur qu'est l'incarnation divine, l'incarnation de Dieu. Je me suis rendu compte que mon petit-fils à 13 ans, qui a été communié à 10 ans, confirmé à 13 ans au mois de novembre dernier, j'ai appris le lendemain de Noël qu'il ne savait pas que le Christ était Dieu. On ne lui avait pas dit, paraît-il, c'est ce qu'il prétend. J'ai peine à le croire. J'ai l'impression qu'il n'écoutait pas. Prenons l'adoration des mages. Essayons de comprendre, pour l'Église d'Occident, pour notre Église, l'adoration des mages, c'est l'épiphanie, la théophanie, la manifestation par excellence, qui a révélé Dieu dans l'humanité entière. C'est la manifestation de l'homme-Dieu au monde, dans la personne là, des sages, des mages d'Orient. Ceux-ci, par le fait même, sont constitués témoins donc de l'incarnation. Et sur les mages accourus près du Christ, petit enfant, resplendit donc la gloire de la manifestation dont ils témoignent eux-mêmes par leur présent. Leur présent? Mais oui, le récit évangélique, on trouve le sens dans les présents, les offrandes. Hein? C'est écrit, ayant ouvert leur cassette et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas trop. Hein? Mais toute la tradition des pères de l'Église, pourtant, est unanime à voir dans cette offrande quoi? La triple confession, la triple affirmation de la royauté, de la divinité, puis de l'humanité, voie la mort, du Christ. C'est saint Irénée qui a prêché, le premier évêque de Lyon, donc, il y a longtemps de ça, hein, au début de l'Église française, dans les premiers siècles. Il écrit dans Contre les hérétiques, Adversus Hérésès, il dit « Conduit par l'étoile vers la maison de Jacob, c'est-à-dire vers Israël, jusqu'à l'Emmanuel, jusqu'à ce Dieu avec nous qui est Jésus, ils ont montré par la nature même de leur présent quel était celui que l'on adorait ainsi. Ils ont donné de la myrrhe, dit-il, car c'était lui qui, pour la race mortelle des hommes, devait un jour mourir et être enseveli. » Donc la myrrhe. Hein? Vous savez qu'ils ont mis de la myrrhe. On a trouvé des traces de myrrhe dans le linceul de Jésus. Hein? Puis c'est raconté d'ailleurs dans l'Évangile. Ils ont offert de l'or, car il est le roi, dont le règne n'a point de fin. Il n'a point de fin, il est éternel, son royaume. Puis, ils ont offert de l'encens, car il est à la fois le Dieu qui s'est fait connaître en Judée et celui qui s'est manifesté à ceux qui ne le cherchaient point, dit saint Irénée. Alors, pardon, la triple offrande, elle exprime donc l'hommage de soumission de toute la création. La création terrestre, c'est de l'or, l'or qui fait partie de la terre. La création céleste, l'encens qui s'élève dans le ciel. Puis, même la création infernale à cause de la myrrhe qui nous fait penser à la mort. C'est en référence à ce beau texte de saint Paul aux Philippiens, qui est si beau, c'est au chapitre 2, ça, les versets 9 à 11. Hein, c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Il lui a donné le nom qui est plus important que tout autre nom, afin que par respect pour le nom de Jésus, tous les êtres qui se trouvent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, se mettent à genoux et que tous proclament que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est un des grands textes du Nouveau Testament. Et l'offrande, donc, proclame le souverain domaine du Seigneur Jésus sur le cosmos. Dans les gestes des mages, le culte des nations païennes se trouve réorienté vers son véritable objet. Le culte des nations païennes retrouve donc son authentique valeur dans le Christ Jésus. Et les mages sont donc, par leur don, les témoins de l'incarnation de Dieu, l'incarnation divine, la divine incarnation. Ils sont aussi la figure, puis les prémices, comme je vous ai dit, de l'Église venue de toute la surface de la terre. Dans leur foi, les mages sont donc l'annonce de notre Église. Ils préfigurent l'universalisme de la catholica, de l'Église universelle. Si Matthieu ne précise pas leur nombre des mages, là, Il y a une tradition des pères de l'Église bien ancienne qui aimait voir en eux les représentants des trois familles humaines. Vous savez, qui sont issus de Noé, on voit ça dans l'Ancien Testament, le Sem, Cam et Japhet. On étudiait ça les plus vieux. Peut-être que les jeunes savent ça aussi. Et parfois, l'universalisme de l'Église est envisagé aussi par le biais des présents, là, l'or et le présent qui vient de l'Occident, les parfums, l'encens et la myrrhe, là, ceux de l'Orient. L'épiphanie, c'est aussi, ainsi donc, dire la fête de la Catholica, parce que au petit reste d'Israël, figuré par les bergers, sont venus puis viennent toujours s'adjoindre d'Orient et d'Occident la multitude des gentils qui n'arrêtent pas de se convertir au Christ. On le voit à l'oratoire Saint-Joseph, c'est la fête du frère André aujourd'hui, hein. Il y aura là beaucoup de gens qui vont venir des peuples les plus lointains, qui ont des peaux aux couleurs brunes et noires et toutes sortes de couleurs, presque, et qui viennent de partout et qui sont plus croyants souvent que nous et qui sont plus chrétiens que nous parfois, hein. Le Christ de l'Épiphanie, c'est notre paix. Parce qu'il a réuni deux peuples. Il n'en a fait qu'un, hein, le peuple juif et le peuple de toute la terre. L'Épiphanie célèbre le mystère de l'unité réalisée dans la foi. Ça commémore quoi? Ça commémore l'illumination intérieure des mages. Là, ils ont été illuminés intérieurement puis sont venus. L'Église, tout à la fois, nous fait rendre grâce à Dieu pour notre propre illumination, comme nous autres aussi, on est illuminés comme les mages, hein, on a reçu le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la parole de Dieu qui nous illumine, hein. Puis demande à Dieu d'accroître dans l'âme des croyants cette lumière qui doit finalement s'épanouir dans la vision de Dieu au ciel, hein. Chaque chrétien est appelé à achever, en somme, dans sa propre vie, l'offrande des mages. Dans quel sens? Pensons que l'or, ce sont les bonnes œuvres. Oui, parce que quand on est charitable avec notre or, c'est-à-dire avec notre argent, nos sous, nos 50 sous, nos dollars ou nos 1000 dollars, nous faisons des bonnes œuvres, mais aussi on donne notre temps. L'encens, c'est la confession de la divinité, parce que ça s'élève vers le ciel, et c'est reconnaître la divinité de Jésus. Puis la myrrhe, c'est la foi en la résurrection du Christ, parce qu'il est enveloppé de myrrhe, il va ressusciter dans son tombeau. Et à la suite, donc, il y a une autre interprétation de Saint Grégoire le Grand, lui, les auteurs au Moyen-Âge, là, ils affectionnent particulièrement un autre thème, c'est la triple offrande de l'or, qui est l'or de la charité, l'encens, c'est la prière, puis la myrrhe, c'est la mortification de toute souffrance purifiante. Alors, sans s'arrêter donc à toutes sortes d'interprétations comme ça, qu'il suffise de bien comprendre que notre vie morale doit elle-même manifester la gloire du Christ, très spécialement, comment? Par la charité et le don de nous-mêmes. Puis, il y a le baptême dans le Jourdain. C'est la solennelle entrée de la scène de Jésus, comme je vous ai dit, hein? Puis les noces de Cana, bien, c'est Jésus qui manifeste sa gloire. Puis ses disciples, là, croient en lui parce qu'ils sont là, ils assistent à ça. Et tout miracle de Jésus, dans les évangiles de Saint Jean, là, c'est pour lui, justement, une manifestation, une épiphanie de la gloire de Dieu. C'est très, très, très important pour lui, tous ces miracles. Et justement, ce jour où on célèbre le frère André, par l'intercession duquel il y a eu tant de miracles, rappelons-nous qu'il y a toujours des manifestations du pouvoir du Christ sur la matière et sur les maladies, et qui est toujours capable de transformer la création. Le Christ est souverain maître, et l'Esprit Saint est là, et un retour de tout ce qui vient de la grande générosité de Dieu au Christ Seigneur, et par lui au Père, ça retourne vers le Père. Et la fête de l'Épiphanie, c'est le thème de l'adoration, c'est le thème qui donne à chacun d'entre nous le vrai sens de notre culte, le culte qui adore Jésus, s'unit à Jésus et s'offre au Père dans l'unité de l'Esprit-Saint. En somme, la fête de l'Épiphanie se dit en grec « théophanie », et j'aime mieux ça, comme je vous ai dit au début, et ça signifie donc l'apparition de Dieu. Et le sens des deux mots est à peu près le même, « épiphanie », »,« théophanie ». C'est « Dieu n'est plus caché, il se fait présent, il apparaît à la surface des choses. » Jusqu'à l'avènement de Jésus, Dieu ne s'était pas manifesté de façon aussi totale. Toute la vie du Christ a été finalement une épiphanie. C'est une apparition de Dieu, la vie de Jésus, du début jusqu'à la fin. C'est très clair en certains cas, comme à la transfiguration, sur le mont Tabor, quand il se manifeste dans toute sa divinité lumineuse à trois de ses disciples, trois de ses apôtres. Mais alors, évidemment, il n'y a eu que quelques témoins. Mais aujourd'hui, l'Église, selon la tradition, célèbre, comme je vous ai dit, les trois événements principaux que l'Église a réunis, là, comme théophanique, manifestation de la divinité de Jésus. Pas seulement aux apôtres, mais au public. Le premier, évidemment, c'est l'arrivée des mages qui viennent pour adorer le Christ à sa naissance. Ils parlent à tout le peuple de Jérusalem, même au roi, du signe mystérieux de l'étoile, là, puis qu'ils ont suivi. C'est une manifestation de Dieu parmi les hommes. Pour qu'ils soient informés de la présence du Christ, nous aussi, nous avons des manifestations comme ça qui nous informent de la présence du Christ. C'est tous les prêtres qui lisent les évangiles et nous les proclament et nous les commentent. C'est les évêques qui nous annoncent, le pape qui nous le dit. Toute l'Église tremble devant cette merveilleuse nouvelle qu'est la bonne nouvelle de la présence de Dieu parmi nous dans le Christ. Le second événement, je vous ai parlé du baptême de Jésus bien brièvement dans le Jourdain par Jean-Baptiste. On sait par l'Évangile, c'est dans l'Évangile qu'à ce moment-là, je vous le rappelle, l'Esprit-Saint apparaît à Jean-Baptiste sous la forme d'une colombe, puis la voix là, qui se fait entendre, qui confirme le Christ aux yeux de ceux qui sont présents, et parmi lesquels se trouvent aussi certains apôtres comme André et Jean. Oui, André et Jean ont assisté à ce baptême et ont vu, si on peut dire, la Trinité. Puis le troisième événement, c'est toujours les noces de Cana, je vous le rappelle. Vous savez, je reviens un peu sur les choses pour que ça rentre bien, qu'on s'en souvienne. Le Christ transforme l'eau en vin. Je vous dis, mais on ne doit pas croire que seuls ces trois faits-là que je viens de vous raconter constituent toute l'épiphanie. C'est évident. La manifestation directe ou au moyen de divers signes de Dieu dans le monde est innombrable. Innombrable! La personne du Christ, c'est une théophanie perpétuelle. Et ceux qui le comprennent voient l'épiphanie en toute occasion. Oui, quand on commence à le comprendre, on le voit dans ses miracles, dans sa parole. On voit aussi sa divinité, sa grandeur, sa beauté dans sa solitude, dans sa prière, dans son regard. Ceux qui l'ont connu, je suis sûr, et ceux qui l'ont rencontré depuis, je lisais un livre ces jours-ci, où un incroyant qui attaquait l'Église a eu comme une vision momentanée, en quelques secondes, du regard du Christ. Il s'est converti. Doit-on le croire? J'ai l'impression qu'il est tellement sincère. C'est phénoménal quand on y pense. Ça l'est toujours, la manifestation de la divinité de Jésus. On parle souvent de la signification des mages qui viennent de loin, là, de l'or, l'encens, de la myrrhe, la signification de l'étoile. On cherche à savoir si c'est une étoile réelle. Vous savez, on en discute donc dans nos journaux. Ou si c'est une étoile mystique qui apparaît à ces mages. Ils sont imprégnés, eux, des prophéties de Balaam, des prophéties très anciennes, puis sont porteurs d'une attente. D'une attente qui est passé de génération en génération à travers les siècles. Car on peut dire que depuis l'apparition de l'homme, l'homme a toujours, à cause de son péché, le péché est entré dans l'univers, on peut dire, par l'homme, car il était le seul à pouvoir pécher, le seul qui a été créé libre. L'homme et la femme, ce sont les premiers dans toute la création détournée de l'amour que Dieu leur portait, et que Dieu leur porte, et nous le faisons toujours. Eh bien, depuis cet état de péché, mais de grâce en même temps, d'adoration en même temps, et de joie devant l'existence de Dieu, mais l'homme a reçu dans son histoire du péché une mystérieuse révélation. Puis, Il a toujours vécu, puis je crois qu'il vit toujours dans une mystérieuse attente. C'est cette attente du Christ, au fond. Si on enseignait davantage la vie et la joie du Christ à nos jeunes, si on les faisait aimer le Christ. Or, les mages arrivent à Jérusalem. Comme vous ai dit tout à l'heure, ils parlent de leur vision, tout ça. Mais vous avez-vous remarqué qu'il n'y a personne qui se dérange pour aller trouver Jésus, le roi des Juifs? C'est très révélateur, hein? Et c'est à partir de là que nous pouvons faire une petite méditation sur le mystère de Dieu et de l'homme. Pourquoi les Juifs ne prennent-ils pas leurs chevaux pour aller voir ce roi eux aussi? Car c'est pas bien loin, Bethléem. Aujourd'hui, on pourrait dire, écoutez bien, pourquoi nous qui avons entendu parler de tant de miracles et d'apparitions, si près de nous, dans notre maison, dans notre ville, comme à l'oratoire ou ailleurs, dans notre pays, nous qui avons vu des savants, des hommes de science et de lettres s'agenouiller avec tant de foi devant Saint-Sacrement, j'en avais interviewé à rencontre le grand mathématicien André Lichnerovitch, professeur au Collège de France, qui reçoit l'Eucharistie tous les jours, Charles Fehrenbach, le grand astronome français, un croyant encore. Est-ce qu'on fait pas ce qu'on fait les mages? Et est-ce qu'on ne va pas réellement au pied de Jésus? Pas nécessairement, hein? On fait semblant. On demeure dans notre attitude d'intellectuel, de croyant ou de prêtre même, installé dans une espèce de personnalité temporelle, comme si notre pauvre ego, notre petit moi, nous servait de fauteuil moelleux, puis archi-cru, là. On est assis en nous-mêmes. Dans un beau livre du père Théodosios, un grec, il dit, nous prêchons l'évangile, c'est un prêtre, nous prêchons l'évangile avec toutes ses nuances sublimes, et nous restons avec notre caractère sommaire et très souvent dans notre vulgarité. Pourquoi demander à l'Israélite d'il y a 2000 ans d'aller auprès du Dieu des mages en prenant ses chevaux et ne pas me demander aujourd'hui à moi, demander à toi aussi, à nous qui avons été témoins de tant de miracles dans notre propre vie, qu'est-ce qu'on fait? Les plus grands hommes de la terre se sont agenouillés devant Saint-Sacrement et beaucoup parmi eux sont devenus de vrais saints, tandis que nous continuons à marcher dans notre petite religion petite, bourgeoise. Il faut réveiller tous les hommes le besoin d'aller vers l'enfant et de l'adorer réellement, réellement. Maintenant, nous n'avons pas à le chercher car nous savons où il est. On ne sait où il est. L'adoration vraie s'accomplit par une transformation de tout notre être, quoi. Et nous avons très souvent, je ne parle pas des athées, je parle de nous, chrétiens, et j'ose même de vous, religieux. Malgré nos paroles et notre savoir, nous avons une notion très intellectuelle de Dieu. C'est souvent un concept bien lointain. La nature est ici, proche de nous. Et Dieu, lui, il est loin, 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 loin. On est pris dans la nature. Tandis que Dieu se manifeste à travers toute la création et toute créature dans le monde, dans le temps, parmi nous, en nous, par nous-mêmes. Et nous sommes là à ressasser les banalités, les platitudes. Qu'avons-nous à être si plates, nous, chrétiens? Quand on sait que tout crie Dieu, un enfant qui naît crie l'existence de Dieu, quand il se forme dans le sein de sa mère. Nos yeux témoignent de la grandeur de Dieu, notre cerveau, nos mains. Les fleurs, les plus humbles fleurs, l'univers entier qui explose, les galaxies. Que dois-je faire alors? Je dois regarder en moi avec grande persévérance pour pénétrer dans un autre univers. Dieu est aussi présent en moi, en vous, en tous, mais nous n'en sommes pas toujours conscients, moi le premier. On peut même dire que toutes les choses tristes comme la mort, la maladie, la méchanceté, cette espèce de tourment plutôt sombre, là, Ça peut être une preuve de bien éternel. Oui, le bien éternel auquel l'homme aspire et dont il s'est séparé depuis des milliers d'années par ses péchés. Il aspire, l'homme, et la femme aussi aspire à un état d'être, à une réalité que seule la notion de Dieu peut combler. Toutes les ténèbres, tous les crimes, plus encore la torpeur, manifeste pour l'homme intelligent et pour l'âme ouverte l'éternité de l'origine, je dirais, et de la mystérieuse réalité de Dieu dans la création, la mystérieuse réalité de Dieu dans la création qui crie son existence partout. Tout manifeste la divinité. L'obstacle vient du dedans de nous. Comme pour les Israélites, ils écoutaient, ils voyaient les miracles de Jésus, mais ils n'allaient pas jusqu'au Christ comme le Messie. Ils attendaient un autre Messie. Ils ne l'ont pas reçu, mais il y en a beaucoup aujourd'hui qui le trouvent, des Juifs. Nous aussi, nous croyons Christ, nous l'avons reçu totalement, puis avec une foi plus ou moins profonde, mais rares sont les hommes parmi nous, rares sont les femmes parmi nous qui vont trouver le Sauveur devant le tabernacle et qui s'abandonnent à lui avec une telle foi, puis un tel amour, qu'ils reçoivent au plus intime de leur âme ce feu que Jésus veut tant répandre partout. La longue expérience de l'Église, puis des sciences profanes qui étudient la psychologie de l'homme, puis toute l'expérience humaine, puis même, je dirais, la simple littérature, sont témoins du fait qu'il y a en nous un obstacle qui nous empêche de voir Dieu présent en nous et autour de nous. C'est un obstacle étrange. Mais les fêtes de l'Église, comme celle d'aujourd'hui, nous rappellent. Elles nous appellent donc à honorer la vérité de Dieu, à trouver Dieu, à le voir dans son éternelle épiphanie, dans son éternelle manifestation. Saint Paul en particulier, il enseigne que toute la création parle de Dieu et dit que ceux qui n'ont pas reconnu le Créateur dans ses œuvres avant la révélation du Christ sont inexcusables. Je vous en ai parlé le 28 mai 1996. Cette cassette a eu un grand succès. Vous savez, je ne fais pas d'argent avec ces cassettes. Je ne fais pas un sou avec ça. Tout est bénévole à Radio Ville-Marie. C'est du bénévolat que je fais. Et puis toute la création nous dévoile la présence de Dieu. On peut le reconnaître derrière les plus petits mouvements des plantes, des arbres, dans la couleur de la terre. Un bouquet de fleurs peut être un appel d'une délicatesse telle que personne, et moi le premier, ne pourrait y correspondre. Et ces fleurs, que l'on peut briser d'un seul mouvement là, de la main, parlent d'un amour si éternel, en fait, si spirituel, si loin de notre vulgarité, qu'on voit réellement l'épiphanie à travers les fleurs. Oui, c'est la théophanie. C'est comme ça, de même, la beauté du ciel et des étoiles, même la musique, même l'architecture, tout ça, ça constitue un appel. Ah! Est-ce qu'on entend cet appel? Sommes-nous sourds? On peut dire que les hommes et les femmes d'aujourd'hui, nous tous, nous sommes poussés, éclairés par Dieu. Et nous concevons puis nous construisons des monuments d'une noblesse à laquelle on ne peut pas toujours correspondre, surtout dans les siècles passés. Toute la création est une épiphanie, puis en même temps une trahison. C'est l'histoire sacrée, un Dieu éternel et immuable se manifeste, puis l'homme, la femme, dans le péché, continue à entraîner l'histoire dans une espèce de lutte perpétuelle, dans une grisaille de l'indifférence. Nous sommes toujours plongés comme dans un péché d'origine. C'est le fruit pourri de notre liberté. Notre liberté si belle que nous utilisons si mal. Notre liberté, elle est faite pour aimer, non pour détruire. Ce serait très nécessaire de méditer sur cela parce que les saints, à des époques tourmentées de guerre, de révolution, de vengeance inconcevable. Ils adoraient Dieu, ils réalisaient des œuvres d'une haute simplicité puis d'une grande sacralité. Ils ont laissé des écrits d'une grande élévation. Qu'est-ce qu'on a prêté l'oreille à ces paroles stupides qu'on entend partout, où on trouve des justifications et les gens disent « Oh, ben la vie est difficile ». Ils ne croient pas, ils vont pas à la messe, la vie est difficile. Ou ils vont dire « Aujourd'hui, ben, le rythme de la vie, c'est très rapide, j'ai pas le temps. » Ou bien « Oh, vous savez, la science va tout expliquer. » Ou « La technique étouffe l'âme et l'esprit. » Puis tout le monde le fait le don. Puis il n'y a rien là. Mais réveillons-nous, grand Dieu. La technique, l'histoire et les guerres changent en rien la beauté de l'univers, les couleurs fantastiques de la mer, les couleurs extraordinaires des fleurs, la lumière du soleil, le sourire des enfants, des âmes qui aiment la vérité. Les âmes qui aiment la vérité sourissent. Elles ne se laissent pas prendre par tout cela. C'est une erreur de croire que nous devons être parmi les fleurs délicates, dans une espèce d'ambiance parfumée, pour que notre âme puisse percevoir le mystère de Dieu dans la création. Voyons, voyons. L'homme qui se trouve dans un camp de concentration, on l'a vu à la dernière guerre, ou qui vit dans des constructions de ciment comme on en voit aujourd'hui, a souvent en lui une vraie nostalgie puis une sensibilité plus grande, oui, que des personnes qui vivent depuis leur enfance dans l'aisance et le raffinement des maisons de banlieue, bourgeoises, closes, ternes. Les choses agréables sont seulement des signes, dans le visible, de ce que nous devons vivre à l'intérieur de nous-mêmes. N'oublions pas que quand le Christ était sur la croix, frappé dans une sueur de sang et que l'on crachait sur lui, mais cet être n'avait plus, comme dit l'Écriture, l'aspect d'un homme, et pourtant, il contenait en lui tout le doré, le bleu et le blanc de la création. Il contenait en lui les sons les plus délicats qui puissent exister tout. Et il n'avait même pas l'air d'un homme. Pensez aux itinérants. On les voit dans le métro chantant, le sourire aux lèvres. Certains ont retrouvé la foi, la plupart même. Et ils vivent avec le Christ dans la mesure de leurs moyens. Et il y a peut-être des saints parmi eux. Oui, comme Saint Joseph Benoît Labre, qui était un itinérant. Ô douce Église qui canonise des itinérants. La création parle de Dieu. Mais la création, ce n'est pas Dieu. Je me souviens de Wilfrid Lemoine qui me disait que pour lui, toute la création était Dieu. Étrange idée, panthéiste. La beauté et la délicatesse des fleurs dont je vous ai parlé, ça doit susciter en nous une libération, une espèce de connaissance qui permette de percevoir un Dieu si grand, si infiniment bon et serein, si aimant, que toute la beauté de la terre disparaît devant lui, au moins à certains moments. Lorsque le cardinal Wyszynski, dont je vous parlerai le 28 mai prochain, le cardinal Mizenti aussi, puis tant d'autres, ont été mis en prison, comme saint Maximilien Kolbe, mais le chant du Seigneur, l'épiphanie perpétuelle dans leur âme, ne cessait pas d'être présent. Il y avait toujours une manifestation de Dieu qui était présente au fond de leur cœur. Elle n'a pas été détruite ni altérée parce qu'ils étaient en prison. Dieu ne cesse jamais de se manifester à chacun d'entre nous, même les plus malades qui m'écoutent, même les plus souffrants, même les plus seuls, même les gens qui ont tout perdu. Mais nous sommes aveugles et sourds. Nous sommes noyés dans nos péchés, dans notre égoïsme, dans notre orgueil, dans notre bêtise, dans nos petits bobos, dans nos souffrances. Nous nous laissons noyer. Ressuscitons avec Jésus. Une chose est nécessaire. Il faut faire comme les mages, et non pas comme les Juifs qui ont demandé où était l'enfant et puis sont restés immobiles. Il faut nous libérer totalement des faux devoirs, les fausses doctrines, toutes les craintes, les esclavages de fausses charités. Il faut nous mettre à la recherche de l'enfant avec les mages. Il s'agit de l'adorer. Ce qu'il faudrait qu'on fasse tous, c'est de susciter en nous un chant, un abandon pour toujours. De quoi? De nos petites considérations, de nos grosses cuirasses psychologiques lourdes, de nos faux, vous savez, des clôtures, des remparts, pour nous présenter devant Dieu et l'Église éternelle, et pour adorer le Seigneur là, dans son éternelle et perpétuelle épiphanie. Oui, il s'agit de l'adorer, de l'aimer. C'est pas si compliqué. Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ notre Roi. Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ notre Roi et notre Dieu. Oui, Seigneur, avec les humbles et avec les savants, nous venons t'adorer. Enfant divin, Roi de gloire, lumière venue éclairer les nations, nous t'apportons l'offrande de nos vies. Nous t'apportons nos faiblesses, nos limites, nos médiocrités. Nous t'offrons aussi le meilleur de nous-mêmes, en nous agenouillant devant ta grandeur. Jamais plus nous ne voulons avoir peur de perdre nos sécurités, nos certitudes, pour suivre l'étoile qui nous mènera sans cesse au milieu des nuits vers toi. Oh, béni sois-tu, mon Dieu, pour le cœur ouvert des mages, partis à ta recherche, entraînant à leur suite une multitude d'adorateurs silencieux, et que toutes les nations sachent que tu es leur lumière et la gloire de ton peuple Israël. Amen. À la messe de l'Épiphanie du Seigneur, on disait « Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations, grâce à l'étoile qui les guidait. Daigne nous accorder à nous, qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur, nous te le demandons, ô Père, par Jésus-Christ, ton Fils éternel, qui vit avec toi dans l'unité de l'Esprit-Saint. Amen. »